quand j'en parle des fois avec des inconnus, je me rends compte qu'en fait tout le monde connaît quelqu'un qui a été dépressif au moins une fois. Une amie ou même soi-même, ou un parent, ou quelqu'un qui a traversé une mauvaise passe.
Vous êtes bien sur La Perche, le podcast de la Maison Perchée. Il est fort probable que vous ayez déjà croisé le chemin de la dépression. Que ce soit dans votre vie, celle d'un proche, dans une série ou dans une story d'un ou d'une inconnue sur les réseaux. Le terme semble presque devenu banal. Mais derrière la dep se cachent de multiples réalités, et souvent de lourdes implications. À ce sujet, nos invités évoquent parfois des souvenirs difficiles, comme celui des envies suicidaires. Si vous avez besoin d'aide en ce moment, vous trouverez des ressources en description. En cas d'urgence, vous pouvez appeler le 3114. Des professionnels seront là pour vous répondre. Enfin, les témoignages de nos invités ne représentent que leur expérience personnelle, mais nous espérons que cette discussion vous apportera une compréhension plus fine des réalités de ce trouble. C'est parti! Et nous sommes en compagnie de Laure, Laurine et Guillaume pour parler de ce thème très important. Donc on va commencer de ce pas. Pouvez-vous nous vous présenter et dire quand le terme de dépression a fait irruption dans votre vie ? Guillaume ?
Du coup, je m'appelle Guillaume. Voilà, j'ai été diagnostiqué unipolaire il y a quelques années, à la naissance de ma fille. Voilà, et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que le terme, en tout cas, de dépression est apparu dans mon parcours.
On reviendra sur ensuite unipolaire, etc., je pense plus en détail, mais merci pour ces premiers éléments. Laure ?
Donc moi j'ai 31 ans, la dépression elle est arrivée en 2015-2016 suite au deuil d'un parent, j'ai perdu un parent proche et c'est ce qui a déclenché cette dépression, mais je m'en suis rendu compte plusieurs mois après quoi, ça a un peu mis longtemps avant que je sache que c'était une dépression finalement, parce que j'ai été hospitalisée et c'est là où on m'a un peu tout expliqué et on m'a diagnostiqué aussi mon trouble bipolaire.
Laurine ?
Oui. Moi, le mot dépression n'a pas été posé tout de suite. Par contre, les symptômes sont arrivés très tôt. J'avais une dizaine d'années. Et le mot a été posé pour la première fois dépression quand j'avais 18 ans, 19 ans même, et j'en ai 24 bientôt. Donc finalement, assez récent. J'ai fait plusieurs dépressions à divers degrés, notamment une très sévère qui m'a valu une hospitalisation. Et là, je suis en rémission, donc j'en sors tout juste.
Merci. On va rentrer dans le détail des symptômes dans un instant, mais peut-être pour démarrer, est-ce que vous auriez une idée d'image pour décrire ce qu'est la dépression pour vous, Guillaume ?
Moi, je le vois un peu comme une comparaison par rapport à un état entre guillemets normal qui serait la surface de l'eau en fait, et la dépression ce serait une descente en fait vers le fond jusqu'à toucher ou pas le fond, mais voilà le comment je, de manière imagée, je présenterai les choses.
Ouais. Merci.
Oui, moi j'ai une image. J'ai vraiment l'impression durant mes épisodes dépressifs, c'est comme si on me mettait des lunettes ou un filtre gris devant les yeux et que tout était triste et gris. C'est vraiment ça, quoi. Il n'y a plus de couleurs, il n'y a plus de... Tout est uniforme. Et voilà, c'est l'image que j'ai.
Moi, au départ, je voyais ça un peu comme des tentacules qui arrivaient, qui m'enveloppaient, et quelque chose d'assez froid, d'assez visqueux, dont c'est difficile de se débarrasser, qui paralyse, qui vide en termes d'énergie, qui rend tout un peu tout gris, comme disait Laure. Et avec le temps, j'ai commencé à voir ça comme un interrupteur, avec des jours avec, des jours sans, et un interrupteur un peu capricieux qu'on n'arrive pas des fois à relever, à remettre en position on. Donc voilà, c'est cette sensation d'être éteinte et ou que quelqu'un appuie sur cet interrupteur, quoi.
Vous avez trois images assez différentes et j'imagine qui permettent de saisir un aspect du trouble dépressif.
Mmh. Ouais, ça se complète bien. Moi, j'avais déjà pensé à l'eau. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui est assez. On dit voilà, toucher le fond. Et moi, j'avais cette impression de qu'il n'y ait pas vraiment de fond et que le fond soit une masse un peu visqueuse avec des tentacules. Tout des lianes, donc ça fait un peu la connexion entre vos deux visions. Et quelque chose d'un peu de marécageux, et qu'en fait, il n'y ait pas, et qu'on puisse pas rebondir parce que c'était mou. Tu vois ce que je veux dire? Qu'on soit piégé dans le. Et qu'il fallait juste apprendre à nager avec, quoi. Mais il n'y a pas d'image de pousser le fond et de remonter à la surface. Comme dans les films. Ça n'existe pas. En tout cas, pas chez moi. On va rentrer un peu plus dans le détail. Déjà, je pense que ce serait intéressant de faire une typologie un peu des dépressions, en tout cas de tout le vocabulaire qu'on met derrière la dépression, déprime, tout ça. Est-ce que vous pouvez voilà, expliquer un peu à nos auditeuristes les différents types de dépression et peut-être la différenciation entre déprime et dépression parce que déprime est quelque chose qui est assez commun dans la société et comment on peut le différencier de la dépression qui est une maladie.
Alors après, j'ai pas le tableau clinique en tête, mais je sais qu'il y a plusieurs strates qui ont chacune une liste de symptômes un peu prédéfinie. On a la dépression légère et je crois que c'est un rapport temps-gravité. Il faut être déprimé, en tout cas avoir un coup de déprime, un coup de cafard depuis plus de 15 jours, je crois, quelque chose comme ça. Et il faut que ce soit associé à une perte d'envie, une perte de motivation, des changements d'appétit. Enfin voilà, il y a toute une petite liste. Et plus on coche de cases et plus ça fait longtemps qu'on est dans cet état, plus on considère que la dépression est sévère. Et il y a par exemple des idées noires ou les idées suicidaires, ça donne d'emblée le ton, quoi. Il y a des symptômes qui ne laissent pas place au doute.
Je rajouterais peut-être une forme d'auto-dévalorisation qui arrive et qui est de plus en plus aiguë au fur et à mesure que le temps passe, en fait. Enfin, plus le temps est long dans ces épisodes dépressifs, plus l'auto-dévalorisation est aiguë.
Donc une perte d'estime de soi.
Voilà, ouais.
Le changement d'appétit, perte d'envie, mauvaise estime de soi. Et ça fait un petit peu comme un tunnel, c'est qu'au départ, on a l'impression, il y a des fois où il y a un petit peu de mieux, on voit des alternatives, et puis plus ça continue, plus on se sent enfermé, et plus on a l'impression que c'est un état qui est durable et qu'on peut pas être autrement, comme si on oubliait en fait qui on avait été avant, ou que on peut agir autrement, on peut penser autrement, voilà, c'est vraiment un tunnel, et à la fin, on n'en voit plus le bout, et tout paraît sans espoir, quoi.
Comme une sorte de piège, pour revenir sur ton image de tentacule qui nous encercle et dont on est piégé.
Exactement.
Et on a même plus la vision de ce qu'on était avant, enfin en tout cas de ce qu'on aimait ou tout ça, parce qu'on est dans les méandres en fait de cette dépression qui en fait reset notre vision du monde. Et c'est pour ça qu'on parle en sortie de dépression aussi de ce besoin de reset, de changer de paradigme en fait qui est très important et que je pense que les gens ont du mal à comprendre en fait aussi, à cerner parce que c'est pas forcément évident. Laure, est-ce que t'as un
non, complément? Non, je pense que c'était assez complet. On n'a pas parlé d'isolement, mais je pense qu'on a tendance à s'isoler dans ce moment-là, tout simplement parce qu'on, quand ça nous arrive la première fois, on ne comprend pas vraiment et on perd le goût de la vie. Tout ce qu'on apprécie en fait c'est plus là et donc ça peut être enfin voilà on va moins sortir voir on perd tout ce que le côté social tout ça donc il y a malheureusement un vrai isolement et ça rejoint ce qu'effectivement le côté tentaculaire où on a une sorte de prison et c'est très compliqué d'en sortir. Mais non, je pense que tout a été dit. Et je crois que le truc vraiment clinique, c'est qu'il faut que ça dure plus de 15 jours, voilà, pour que ça soit considéré comme une pathologie, une maladie, et pas un petit coup de déprime, le coup de blues, quoi. Voilà.
Si je peux rajouter quelque chose par rapport à l'isolement, c'est qu'il y a une impression de ne pas être compris et de pas pouvoir être compris dans ce qu'on vit, dans ce qu'on ressent, et d'où aussi le fait de s'isoler et de rester un peu dans son coin, dans son...
Totalement, parce que les gens ont vite tendance à dire, mais dis-nous, pourquoi tu l'as pas dit? Et donc comment est-ce que vous expliqueriez ça, cette incapacité à partager en fait ce moment de détresse? C'est à ce moment-là qu'on aurait presque le plus besoin de ses proches, mais on est le moins capable de transmettre.
Personnellement, c'est associé à un sentiment de culpabilité. C'est que j'ai l'impression de peser trop lourd, que si je vais demander quelque chose, ça va être une demande trop forte. Et du coup, j'ose juste pas demander. C'est comme si ça allait déranger, comme si ça allait être insupportable pour tout le monde. Et du coup, c'est quelque chose que je vais garder, que je vais essayer de minimiser et de cacher surtout. C'est quelque chose que je gère en solitaire. Alors, c'est peut-être pas la meilleure manière de faire, mais en tout cas, moi, ça marche comme ça.
Okay.
Dans une certaine limite, bien sûr.
Ouais.
Okay, donc un peu une forme de peur d'être un poids.
Mm-hmm. Ouais, et puis une peur de finalement plomber l'ambiance, en quelque sorte. Enfin, si on va avec les autres, si on va en groupe avec d'autres personnes, d'autres amis, notre entre guillemets notre mal-être pourrait potentiellement contaminer d'autres personnes. Enfin, s'il y a un côté un peu comme ça aussi.
Et peut-être pour aller plus loin, je pense que socialement, finalement, c'est assez mal vu d'être triste et de pas aller bien, d'être pas joyeux, en tout cas en communauté, en groupe. Et quand on a des symptômes dépressifs, on va plutôt se dire bon, je vais rester dans mon coin, je vais rester seule et j'ai pas envie que les gens me voient comme ça. Ce qui, au final, est pas forcément la bonne solution, parce que peut-être qu'on les protège eux, mais nous, on devrait en parler, quoi. Mais ça, peut-être qu'on en parlera après, justement.
Ça me fait penser à une question. Qu'est-ce qui vous aide dans ces moments-là, dans la façon dont vos proches peuvent vous entourer? Qu'est-ce qui peut vous faire du bien?
Le respect du rythme. Parce que c'est vrai que quand on est dépressif, on peut se sentir très vite fatigué. Moi, je sais que j'ai une batterie sociale dans ces moments-là qui se vide extrêmement vite. Et me dire, par exemple, viens, on va faire un tour au parc. Je trouve ça chouette. Effectivement, ça fait prendre l'air, le soleil. Mais respecter aussi, quand je dis, là, on a fait un tour et ça me suffit, j'en ai marre, j'ai envie de rentrer. Et pas, ah, mais déjà, on vient juste d'arriver. Voilà, respecter peut-être... cette différence qui est liée à la maladie, quoi, au final.
Donc peut-être demander que la personne vous demande t'as envie de quoi, et pas viens faire telle activité en imposant l'activité, la durée de l'activité, etc.
Après, j'ai envie de quoi, la réponse peut très vite être j'ai envie de rien. Donc des fois, imposer, pousser un peu, ça peut faire du bien, mais c'est comme un compromis. Dire d'accord, je sors, mais on sort pas longtemps, ou alors voilà, trouver un accord un peu tacite où chacun fait un effort pour faire plaisir à l'autre.
Peut-être d'entendre tout simplement que ça va pas du tout. Juste être là et quand nous écouter, en fait, écouter notre mal-être et juste s'en rendre compte et accepter que ça va pas. Et justement, pas forcément nous stimuler, nous dire ah, mais faut qu'on fasse ça, faut que tu bouges, faut qu'on aille voir des gens. Accepter qu'on a besoin d'un temps, quoi. Et voilà, c'est... Parce qu'on essaie toujours de trouver des solutions et de chercher à régler un problème. Et finalement, c'est... Bah là, parfois, il faut juste écouter, quoi.
Moi, cette question, elle m'embête un peu. Parce que dans mon histoire, j'ai finalement appris à pas compter sur les autres, en fait, pour me sortir en fait de cet épisode dépressif. Et j'ai finalement construit des outils où finalement je suis le seul à pouvoir et finalement dans ces moments-là mon entourage je n'est pas là, en fait. Enfin, je m'arrange pour qu'il n'y ait plus personne, pour m'en sortir sûrement parce que dans ces moments-là, ça a pu être tellement un poids, en fait, la présence de proches, que je sais pas, j'ai peut-être appris à. J'ai peut-être trouvé d'autres.
Mais donc, à la limite, ça pourrait être, en fait, parfois, le mieux que puissent faire les proches, c'est de se mettre en retrait, ou en tout cas d'accepter de se mettre en retrait si c'est un besoin qui est exprimé, et de ne pas mal le prendre déjà, de se dire, ok, ça peut être un besoin aussi.
Oui, mais c'est pas forcément. Enfin, la manière dont je peux procéder, c'est que de toute façon, les proches, entre guillemets, ne vont même pas avoir la possibilité de se rapprocher, en fait, parce que pas de téléphone, pas de.
Tu disparais, en fait.
Ouais, il y a un petit côté comme ça, ouais.
En plus, super-héros. Qui rentre dans sa cave.
Ouais, après, il y a eu tout un temps où je vivais seul dans une petite chambre, et où finalement c'était très facile de, je rentre et puis je coupe mon téléphone, et les liens sociaux ne sont plus là, en fait. Et petit à petit, ça m'a permis de développer aussi d'autres moyens, en fait.
Mécanismes, ouais. Ouais. On va peut-être en parler. Ouais. Ouais, vas-y.
Finalement, je pense que la réponse, elle dépend beaucoup du tempérament de la personne, parce qu'au final, si on est introverti, extraverti, si en fonction de tout ça, on va pas réagir de la même façon à la dépression, on va pas avoir les mêmes besoins face à la dépression. Moi, j'ai connu quelqu'un qui, dépressif, avait besoin d'être énormément entouré, qu'il arrivait pas à rester seul ou très difficilement. Donc finalement, ça dépend vraiment du tout à chacun, et je pense que, comme disait Laure, l'essentiel, c'est d'être à l'écoute du besoin de l'autre réellement, quoi, quitte à ce que ce soit douloureux aussi pour soi.
C'est pour ça que finalement, il n'y a pas une dépression, mais il y a dépressions, et il y a un vécu qui est propre à chacun.
Et,
ouais.
Et des sorties de dépression, du coup.
Ouais, du coup.
Peut-être justement, vous avez dit que vous avez chacun fait l'expérience de la dépression dans des contextes assez différents. Et en fait, la dépression, elle peut arriver suite à un événement, c'est ce que tu disais, Laure, où sans qu'il y ait d'éléments déclencheurs extérieurs véritablement. Ça s'est passé comment pour vous? Est-ce que ça a été progressif, brutal?
Je sais que pour ma part, il y a eu un début où les choses, n'étaient pas nécessairement claires. Et je sais qu'avec le temps, et notamment maintenant, ça va avoir tendance à revenir souvent à la même période. Voilà, je sais que le mois de décembre, ça va être un peu compliqué, ce qui va me permettre aussi d'être plus vigilant. Et voilà, il peut y avoir un côté des signes, en fait, qui vont faire que là je vais me dire maintenant attention, là il faut que je fasse attention.
Est-ce que tu pourrais redéfinir aussi la dépression unipolaire? Je pense qu'on l'a pas fait, hein. Enfin, rapidement, mais en tout cas il y a le côté cycle.
Il y a un côté cyclique. Il y a des périodes. Donc, enfin, là, je disais effectivement le mois de décembre. Je sais que ça va être une période un peu plus fragile, où je vais sentir à un moment que ça glisse, en fait. Si je fais pas suffisamment attention, ça va être un moment où je peux me laisser tomber et aller dans des périodes d'isolement très intenses. Après, du coup, comment définir l'unipolarité? La manière dont on me l'a présenté, notamment mon psychiatre, c'est une bipolarité sans les phases maniaques et hypomaniaques.
Donc le côté cyclique, mais seulement dans la dépression.
Voilà, ouais.
Les autres, du coup
Comme je disais, moi j'ai perdu un proche, c'était en avril 2015 exactement, et je me suis fait hospitaliser en mars 2016. Donc ça a pris son temps, ça a été assez progressif. J'avais l'impression d'être en pilote automatique, vraiment. Alors moi, ça arrive aussi à un moment où je venais de créer ma boîte, donc je travaillais beaucoup. Et j'avais eu cette perte d'un proche, ce travail. Et donc, mes journées étaient vraiment toutes les mêmes. Mais c'était très dur de me lever le matin. Je ressentais plus aucune vraie émotion. Et j'avais plus trop de goût... tout ce qui était loisirs, etc., c'était plus du tout présent dans ma vie. Et il y a eu une perte de poids, il y a eu pas mal de symptômes qu'on retrouve dans une dépression. Mais en tout cas, ça a été une arrivée progressive et déclenchée finalement par un événement assez traumatique pour moi.
Moi, c'est vraiment venu petit à petit. Comme je le disais au début du podcast, on pense que les premiers symptômes sont apparus vers l'âge de 10 ans. Et c'était vraiment très timide au départ. C'était peut-être des migraines, pas envie de grand-chose, un peu d'isolement, mais voilà, c'était là, mais sans plus. Et à l'adolescence, ça a évolué. J'ai commencé à avoir des idées noires. J'étais en surpoids. Comme des petites briques qui s'assemblent, des choses qui s'accumulent petit à petit. Et bizarrement, un jour, j'ai commencé à avoir des phases up en opposition à ces phases de dépression. J'ai commencé à me dire, il y a un truc qui cloche chez moi. Ne serait-ce que d'avoir des idées noires. Enfin, tout le monde sait que c'est pas dans la norme, ou en tout cas, c'est pas. On se dit à partir du moment où j'ai envie de mourir, où j'ai des idées suicidaires, il y a quelque chose qui cloche. Mais j'avais ces phases où tout allait bien, donc je me disais, bon, bah, même trop bien parfois, donc je me disais, bon, bah, on va faire avec, on va faire comme ça pour l'instant. Et ce qui m'a forcée à mettre le haut là, c'est quand mon sommeil a commencé à partir en vrille, mais méchamment partir en vrille. Je dormais 17 heures par jour. Donc là, j'ai commencé à me dire, il faut que je consulte. Donc j'ai consulté au départ pour des troubles du sommeil. Et en fait, les tests ont révélé que c'était une dépression qui engendrait une hypersomnie. Et donc de là, j'ai commencé le long parcours de diagnostic, les essais de traitement, etc. Donc une arrivée qui s'est fait vraiment progressivement sur plusieurs années et de façon assez silencieuse, finalement, jusqu'à ce que ça devienne complètement ingérable.
Pour tous les trois, en fait, à des degrés divers, mais le diagnostic a pris un certain temps parce que, en fait, j'imagine que. Est-ce que vous vous étiez dit à un moment, ah, ça doit être ça? Qu'est-ce qui fait qu'on ne l'identifie pas forcément tout de suite, en fait?
Moi, je pense, avec du recul, je pense en fait que j'ai lutté pour pas que ça arrive. Et c'est pour ça que je me levais le matin, j'allais travailler, etc. Bon, inconsciemment, oui, je pense que voilà, j'avais pas du tout envie que ça m'arrive parce que j'avais déjà vu ça et j'avais déjà vécu ça avec mon papa. Et je savais toutes les conséquences, pardon, je savais toutes les conséquences que ça pouvait avoir. En fait, j'avais une vision très dure de ça. Et pour moi, c'était vraiment être un boulet d'être dépressif. Je me suis dit, mais il faut absolument pas que je devienne un boulet pour mes proches. Non, ça peut pas m'arriver. Et c'est pour ça que ça a pris autant de temps et que ça a été aussi aussi sévère, parce que voilà, je me suis fait, en fait, ça allait jusqu'à la tentative de suicide. Donc je suis vraiment allée au bout. Et là, voilà, il y a eu cet événement et je me suis hospitalisée. Mais je pense que voilà, inconsciemment, je luttais et je voulais pas que ça m'arrive. On peut pas trop lutter contre ces choses-là. Donc voilà.
Donc il y a une forme de déni au début qui.
Ouais, ouais.
Plus ou moins long, quoi. Comme tous les diagnostics dont on parle ici, souvent, il y a quand même un certain moment, quoi, une durée d'appropriation de ces termes qui sont quand même assez lourds dans la société. Et voilà, ouais, Guillaume, peut-être tout ça.
Ouais, du coup, je réfléchissais à mon parcours et au fait que, en fait, il y a eu d'abord une incompréhension. Un déni qui a fait suite à une hospitalisation à 20 ans et un premier diagnostic en fait de schizophrénie que j'ai pas du tout accepté, et du coup j'ai été dans une espèce d'errance pendant une dizaine d'années, mais où finalement j'étais seul et j'avais que moi à gérer, donc je m'en sortais plus ou moins. Et le déclic a été vraiment quand ma fille est née, en fait, où finalement je me suis dit, bah là il y a un moment où ça ne concerne plus que moi, mais la famille que je suis en train de construire. Et là, ça a été un peu le déclic, et y a un vrai travail qui a commencé à ce moment-là. Avec finalement une acceptation de se dire oui, il y a vraiment quelque chose qui va pas, un nouveau diagnostic qui a été posé Et voilà, la dépression, voilà, ça, c'est là. Ça peut revenir de manière, comme je disais tout à l'heure, cyclique.
Donc c'était plus, en fait, il y avait des symptômes depuis plus longtemps, mais tu t'es dit à un moment, il faut que je prenne ça en charge, il faut que je peux pas laisser traîner,
voilà,
ça, il faut que je fasse quelque chose.
Oui, voilà, c'est qu'il y a un moment où il fallait que je m'y confronte réellement. Parce que finalement, là, tu vas pas faire couler que toi, mais tu vas faire couler aussi ton entourage qui t'est de plus en plus précieux, donc voilà.
Donc c'est confronter, c'est-à-dire consulter, se renseigner aussi, ce qu'on appelle la psychoéducation, j'imagine, les routines, éventuellement le traitement, voilà, tout ce panel de choses. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos manières d'adresser cette chose, cette maladie?
Je sais pas trop. Enfin, moi, mon parcours avec les médicaments, il est assez expérimental, dans le sens où j'ai commencé par des antidépresseurs qui ont tellement bien marché qu'il a fallu les arrêter vite parce que j'étais trop up. Et du coup, à partir de là, ils ont décidé de me mettre sous thymorégulateur, où le but, c'est de lisser l'humeur, parce que moi, je suis cyclothymique, donc c'est des épisodes d'hypomanie, de petite manie littéralement, et de dépression, qui peuvent être très sévères chez moi, et ça fait des vagues, voilà, entre quelques heures à plusieurs semaines pour un épisode. Et donc du coup, l'idée, c'est de lisser tout ça, rapetisser les vagues pour avoir en fait des humeurs classiques, quoi. On peut tous avoir le coup de blues, le cafard, une joie intense, mais voilà, que ça reste dans une proportion normale. J'aime pas trop ce mot, mais là, ouais, je vois pas trop d'autres termes.
Acceptable.
Oui, voilà, c'est ouais, ça. Vivable.
Oui, c'est ça.
Et du coup, finalement, mon traitement, c'est plutôt un traitement d'ensemble qui vise à me stabiliser plutôt qu'à traiter de manière très ponctuelle la dépression, parce que quand la dépression, elle dure 4 jours, on peut pas faire grand-chose. Donc c'est beaucoup d'adaptation au jour le jour. C'est se lever le matin et se dire, bah, comment je me sens aujourd'hui? Je me sens comme ça, et bah, aujourd'hui, du coup, je me prévois telle activité. Si un matin je me réveille et je me sens déprimée, je me dis, ok, je vais commencer par prendre une douche bien chaude, essayer peut-être de faire un peu de yoga ou des trucs pour de méditation, pour se détendre, de se dire, aujourd'hui, bah, je me sens pas au top, donc je vais peut-être y aller mollo, revoir à la baisse ce que j'avais prévu. Voilà, c'est vraiment en se disant que, bah, demain sera peut-être un jour meilleur, en croisant les doigts. Voilà, et quand je vois que les mauvais jours s'accumulent, là, c'est de se dire, attention, t'as cette tendance à faire des épisodes dépressifs, est-ce que là t'es dedans ou pas, et du coup de voir avec mon psychiatre ce qui est faisable à ce moment-là. Mais c'est vrai que du coup c'est beaucoup d'auto-évaluation et beaucoup d'adaptation finalement.
Et de connaissance de soi, du
oui,
coup, qui implique une connaissance oui, de soi.
Oui, bah, comme le dit Laurine, c'est vraiment un panel de clés, c'est, il y a toute une liste de plein de petites choses à savoir et à faire pour contrer la dépression. Ça passe par s'entourer de médecins, psychiatres, psychologues, des soignants avec qui ça match. Ça peut être un traitement médicamenteux, et ça va être aussi, comme tu le disais Sylvain, la psychoéducation. Enfin, je pense qu'il faut essayer d'en apprendre le plus possible sur sa maladie. Une hygiène de vie. Alors, le côté hygiène de vie, ça fait un peu, faut aller dormir tôt, faut pas boire d'alcool. Enfin, c'est un côté un peu moine dans tout ça, mais je pense que c'est important de savoir où sont nos limites. Comme tu disais aussi, si plusieurs jours de suite on sent que voilà, ça va vraiment pas bien, se dire peut-être aller voir, justement, aller consulter ou. Et enfin, pas s'isoler. Je pense qu'il faut essayer d'en parler autour de soi. Voilà. Mais ça, c'est peut-être une fois qu'on l'a déjà vécu. La première fois, c'est pas facile d'avoir tous ces réflexes.
Ce que je trouve très réconfortant, c'est aussi de se dire qu'une dépression, ça se voit à l'IRM et c'est un vrai désordre chimique dans le cerveau. Donc finalement, c'est de se dire, j'ai un peu comme si j'avais des potions magiques avec des hormones et aujourd'hui, si je me sens déprimée, c'est que j'ai peut-être un déficit de sérotonine, par exemple. Donc je vais chercher à en stimuler. Et comment je crée de la sérotonine en prenant le soleil, en mangeant peut-être certains éléments plutôt que d'autres, en faisant du sport. Et à partir du moment où on voit ça comme quelque chose d'assez logique, d'assez scientifique, c'est peut-être déjà, ça fait un peu moins peur et c'est peut-être plus facile aussi du coup de se repérer et de savoir comment prendre en charge ce trouble ou ces mauvais jours.
Il y a vraiment cette question d'expertise de soi-même, quoi. Mais j'ai l'impression qu'avec la psychoéducation, c'est aussi ce qu'on fait, quoi. Mettre en place des choses pour vivre mieux, tout simplement. Laure, tu voulais rajouter quelque chose?
C'était un peu, j'en ai déjà parlé, mais je pense que c'est très important de, quand ça nous arrive, même si c'est pas évident, d'en parler autour de soi. Et on n'est pas seul. Enfin, la dépression, c'est un des troubles psy qui touche le plus de Français, de Françaises. Voilà, c'est une des maladies psy qui existe le plus, quoi. Et voilà, se dire qu'on n'est pas seul, comme tu disais, Laurine, que c'est une maladie, c'est pas une question de volonté. On a fait un micro-trottoir à la Maison Perchée et on demandait un peu si les gens connaissaient les troubles psy, etc. Et il y a une dame qui nous a dit, mais non, mais les gens qui ont des troubles psy, c'est des gens qui veulent pas être heureux. Et je trouvais ça très dur. J'étais très violent, ouais. Et c'est vraiment pas ça. Et ça fait un peu, c'est comme si c'était notre faute. Non, pas du tout. Donc, il faut vraiment, et je pense, faut briser le tabou, en parler, et plus on en parle, c'est important de le dire, mais plus on sauvera des vies, quoi.
Oui, enfin, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, une fois, on me l'a présenté comme un échappatoire. Si ce qui t'arrive en fait c'est parce que tu veux pas te confronter à la entre guillemets à la vie
à la société
Oui, effectivement, c'est une vraie maladie en fait et
l'image aussi un peu de l'escargot, enfin se recentrer sur soi-même, la maladie du soi aussi qu'on dit parfois pour les troubles bipolaires ou que c'est en fait la maladie des gens trop individualistes ou j'ai déjà entendu ces choses-là c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à penser à soi-même parce que on a plus grand chose, enfin il reste plus grand chose d'autre et c'est aussi comme ça qu'on peut repartir, c'est en pensant à soi et en trouvant des mécanismes ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Donc en fait on est centré sur soi-même mais c'est pas de la bonne, enfin c'est pas de manière spontanée, c'est quelque chose qu'on subit plus qu'autre chose.
Comment vous réussissez à en parler aux autres? À qui vous en parlez? À votre famille, à vos amis? Et peut-être quels sont les obstacles que vous rencontrez dans cette communication? Et comment vous avez abordé le truc?
Moi, la meilleure façon de me faire comprendre, ça a été de confronter directement mes proches à ma réalité. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai vécu le parcours de diagnostic de façon assez solitaire. C'est moi qui prenais mes rendez-vous, j'y allais seule, j'étais toute seule aux annonces de diagnostic. Et j'essayais toujours de minimiser mes symptômes face à mes proches. Et je sais que là où il y a eu un gros point de conflit, c'est quand il a fallu que je prenne mes premiers médicaments. Tout le monde me disait « Non, ne les prends surtout pas, t'es pas malade à ce point-là, c'est dans ta tête, les médicaments, ok, ça soigne quelque chose, mais ça désingue autre chose dans ton corps, ne t'embarque pas là-dedans. » Et moi, je savais que j'en avais besoin. J'allais tellement mal, je me suis dit « Même si ça me désingue autre chose, là, j'ai plus rien à perdre, en fait. » Et il a fallu, c'était une vraie lutte, et un jour, j'ai tout lâché. J'ai rien cherché à cacher, rien cherché à minimiser. Et là, mes proches se sont rendus compte de ce que c'était vraiment la dépression, me voir pratiquement catatonique au fond de mon lit, à peine pouvoir parler, à peine pouvoir bouger, ne presque pas manger. Enfin, c'était quelque chose, quoi. Et une fois qu'ils se sont confrontés à ça, ils m'ont dit « Ah oui, il y a un problème, prends tes médicaments, on veut que tu ailles mieux, quoi. » Donc finalement, ça a été un peu cru, mais ça m'a sauvé la vie. Et quand j'en parle des fois avec des inconnus, je me rends compte qu'en fait, tout le monde connaît quelqu'un qui a été dépressif au moins une fois. Une amie, ou même soi-même, ou un parent, ou quelqu'un qui a traversé une mauvaise passe. Et plus on est à l'aise avec le sujet, plus les gens en face se sentent libres d'en parler. Et généralement, ça met mal à l'aise ceux qui ont la santé mentale comme tabou. Donc c'est assez facile finalement de repérer un petit peu, entre guillemets, dans quel camp sont les gens et du coup de faire un peu de pédagogie ou de... Enfin voilà, mais ouais.
Qu'est-ce que vous aimeriez dire ou si vous parliez à des gens qui venaient d'avoir un diagnostic de trouble dépressif?
Moi, je lui dirais ou je me dirais, c'est pas ta faute, c'est pas un manque de volonté. T'as rien fait pour mériter ça. C'est pas un mauvais karma. C'est juste, c'est comme ça, c'est la vie. Et surtout, tu peux t'en sortir. Tu peux aller mieux. C'est une maladie qui se soigne, une maladie qui touche plein de gens. Tu n'es pas seul. Et surtout, reste bienveillant envers toi-même, parce que c'est une maladie qui met à rude épreuve les relations sociales, qui met à rude épreuve le corps, qui met à rude épreuve l'esprit. Une dépression, on peut avoir des séquelles cognitives 6 mois à 1 an après la fin de la dépression. Donc c'est un long parcours et surtout il faut pas perdre espoir, quoi. Il faut rien lâcher. On peut s'en sortir et ça, on peut vraiment aller mieux.
Ça cogite en face. Tu t'es dit...
C'est vrai que c'était assez complet. Enfin, ça semble.
Mais ouais, c'est ça, ouais. Mais surtout la bienveillance, tout ça. Ouais, je me retrouve vraiment, quoi. Être gardé de la bienveillance, de la sympathie envers soi-même. Même au moment où on se déteste, quoi. Au moins, cultiver un minimum d'empathie. Et ouais, est-ce que vous auriez peut-être des conseils pratiques, je sais pas, un peu très précis, très, très propre à votre expérience? Je sais pas, une musique, aller au musée, je sais pas, quelque chose qui vous a permis d'un déclic?
Personnellement, je célèbre toutes les petites victoires. Sortir faire les courses, alors que j'en ai pas envie et que c'est compliqué, c'est une petite victoire. Aller au musée ou passer du temps avec un ami pendant une heure, c'est une petite victoire. Enfin, la petite victoire, elle est très relative, mais dans cet objectif de bienveillance, toute chose accomplie qui a été difficile à cet instant est un avancement, est un pas en avant et ça se célèbre, quoi. Parce que c'est toutes ces petites célébrations qui font qu'à la fin, on peut en célébrer une plus grande qui est la rémission. Donc voilà, tout est bon à prendre pour se sentir mieux.
Moi, je fais quelque chose pour le coup de très pratique. Pour moi, ça marche. Je sais pas si ça marche pour tout le monde, mais c'est j'essaye en tout cas tous les soirs d'écrire. J'essaye au moins 3 choses, mais en tout cas les choses qui m'ont fait du bien dans la journée, qui m'ont apporté une joie, qui m'ont fait sourire. Ça peut être des choses vraiment anodines, mais juste de prendre ce temps là pour revenir sur ma journée et en fait me rendre compte qu'il y a des choses qui étaient cool, ça me fait beaucoup de bien. Et ça, je le fais, que je sois en dépression ou pas. Mais c'est vrai que ça peut peut-être, du coup, aider, justement, quand on va pas bien.
C'est très genré comme remarque, mais en tant qu'homme, on a assez peu vu des gens écrire dans un journal intime, quoi, tu vois. Dans les films ou dans la pop culture.
Ça peut être sur une note d'iPhone.
Oui, moi aussi. Oui. Regarde, mais moi j'ai essayé de m'y tenir depuis quelques années, mais... C'est un truc que j'ai dû inventer un peu, voilà, enfin, en tout cas me créer tout seul, quoi, parce que personne dans mes potes me dit « Ah, j'ai écrit dans mon journal et tout ». Guillaume, est-ce que t'as un conseil?
Alors pour le coup, c'est pas tout à fait un journal intime, mais ça pourrait... En fait, j'ai un personnage, un gros chat blanc qui s'appelle Moby Dick, que je dessine. Et qui m'aide énormément, finalement. C'est devenu un compagnon, et parfois je vais maltraiter, Parfois, je vais lui faire des gros câlins. Mais voilà, enfin, et du coup, c'est par le dessin de ce personnage-là, ce gros personnage tout moelleux, tout. Et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup pour le coup. Enfin, je sais que c'est comme si c'était quelqu'un qui me soutenait aussi, enfin, d'une certaine manière. Enfin.
Il y a une BD comme ça avec un renard, non?
Oui, c'est Goupil ou Face.
Goupil, ouais. Qui parle de bipolarité. Et du coup, je sais pas, je l'ai pas lu, mais tu l'as lu?
Oui, je l'ai lu, elle est super, cette BD.
Ça a l'air très bien. Et donc le renard est un peu l'alter ego, enfin le...
C'est ça, bah c'est la personnification de sa maladie, de son trouble, et du coup elle évolue avec lui, comment le renard lui rend la vie dure, et comment elle, des fois pour se venger, elle lui rend un peu la vie dure aussi. C'est grâce à ce personnage qu'elle a réussi à appréhender son trouble, à le prendre en main d'une certaine manière, et à être en paix avec lui.
Ouais. Elle le dissocie aussi de sa propre
perfide,
voilà, de,
ouais, ça met de la voir
en face, quoi. Ouais. Ouais. Très bien, donc Goupil en face.
Goupil ou face.
Goupil ou face. Ou face. Ouais. T'as le nom de l'autrice?
Pardon?
Le nom de l'autrice, j'ai oublié.
Lou Luby, je crois. Lou Luby.
Super. Une petite reco culturelle pour la fin. Et voilà, est-ce que vous avez un petit mot d'espoir, d'adieu, une conclusion?
Peut-être un message à adresser à la société de façon plus large, voilà, si vous voulez que nos auditeurices repartent avec une idée.
C'est un truc un peu peut-être cucu, mais soyons gentils les uns avec les autres. Tous, enfin, c'est con, hein, mais je pense que c'est malheureusement très rare. Et juste, voilà, soyons gentils et à l'écoute. C'est pas très compliqué finalement, mais c'est tellement important et ça fait, voilà, ça peut changer beaucoup de choses. Donc voilà, juste ça.
Ça peut tout faire gagner. Soyez gentils avec vous-même, avec tout le monde et votre chat.
Il y a des choses qu'il faut pas prendre personnellement, la réaction de certaines personnes ou des certaines situations auxquelles on peut être confronté. Faut se dire que c'est pas nous le problème. C'est peut-être aussi une vision de société qui n'est pas bonne et il faut simplement vivre son trouble comme on a envie de le vivre, si on veut le cacher, si on veut être transparent. C'est personnel et personne ne peut nous reprocher ça. Donc ouais, être en accord avec soi, avec ses envies, ses valeurs, je pense que c'est le plus important et personne ne peut nous dicter comment vivre au mieux notre maladie.
La première chose que j'ai envie de dire, ce serait simplement que la vie est belle. Voilà, et que finalement les troubles font partie de nos vies, de nos existences, mais que ça n'enlève rien à la beauté de nos vies, en quelque sorte. Enfin, et voilà, enfin, on peut continuer à avancer, on peut continuer à avancer ensemble, on peut continuer à faire des choses, et bah allons-y, en fait, simplement.
C'est bon là, hein. Je pense qu'on a la conclusion. Hein. Ouais. Et oui, c'était très beau. Et ce moment était très beau d'ailleurs. Merci à tout le monde. Et à bientôt pour un nouvel épisode.
De la perche.
La vie est belle. C'est aussi un super morceau de Brigitte Fontaine. Voilà.
C'était La Perche, le podcast de La Maison Perchée, réalisé par Anna Klarsfeld et Sylvain Pinault, avec une musique de Blasé et Michael.
On espère que cet épisode vous aura plu, touché, voire même inspiré.
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait chaud au cœur. Si notre démarche vous touche, n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles ou des mots doux en commentaire sur les plateformes d'écoute.
Tant que vous êtes encore là, on en profite pour dire un grand merci à l'équipe du Palais de Tokyo et à Johan Gourmel. Une bande d'écoute est disponible dans le Hameau, un espace ouvert à toutes et à tous à l'entrée du musée. N'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes dans le coin. C'est l'occasion d'aller visiter Toucher l'insensé, une exposition qui s'inspire de la démarche de la psychothérapie institutionnelle
et qui interroge le rôle de la création artistique dans le rétablissement et l'émancipation. L'expo se tient jusqu'au 30 juin. Salut.